Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui ont eu le courage de venir ce matin, malgré le fait que c'est les vacances. Mais ce n'est pas les vacances pour tout le monde. Des vacances, on est toute l'année en vacances. On ne fait même plus trop la différence, quoi. Je m'étais renseigné auprès de vos responsables pour savoir est-ce qu'il y a un sujet particulier à traiter ce matin, et ils ne me l'ont pas dit, ou juste un peu fait allusion à que vous traitez un peu la question du personnage du témoin. Et du coup, j'ai pris un exemple biblique d'un témoin qui nous a bien des leçons à apprendre. Donc, je vais vous le présenter. Silas, le mini-portrait d'un serviteur. Vous savez qu'il y a dans l'Écriture un grand nombre d'allusions biographiques, c'est-à-dire des petits extraits de la vie de quelqu'un. Ils sont très, très nombreux dans l'Écriture, et c'est pour cela que je pense que si ça se trouve dans la Bible, c'est que chaque fois, il y a une ou des leçons à retenir. Et là où je pose un peu la question, mais qui est cet homme qui est mentionné 20 fois dans le Nouveau Testament, un homme qui semble avoir vécu une bonne partie de sa vie à l'ombre de l'apôtre Paul? Quelle leçon à retenir de ces quelques allusions biographiques que nous trouvons dans le livre des Actes? On peut distinguer 4 étapes dans son ministère. Le premier, c'est, je l'ai appelé, un ministère sédentaire. Et là, il se révèle simplement comme un homme de confiance, fidèle à son église locale. Il a assisté au débat et à la solution de ce qu'on appelle quelquefois le concile de Jérusalem, là où les apôtres devaient décider, oui ou non, on exige des convertis d'origine païenne de pratiquer la loi juive, oui ou non. L'apôtre Paul et ses compagnons farouchement opposés à ce fait, en disant clairement, nous n'avons pas été capables nous-mêmes d'observer la loi, qu'est-ce que vous voulez l'imposer à des chrétiens d'origine païenne? Et les orthodoxes, les traditionnalistes parmi les chrétiens de Jérusalem qui affirmaient le contraire. La décision a été prise d'une façon tout à fait remarquable. Si vous voulez savoir comment régler un conflit, relisez le chapitre 15 du livre des Actes. Il y a des précieuses leçons de la façon de faire pour arriver à un compromis qui soit satisfait pour tout le monde. Donc la décision a été prise, non, on ne va pas exiger des chrétiens d'origine païenne de pratiquer la loi juive. Et il fallait répondre à ce qui est devenu le nouveau centre chrétien qui s'est déplacé à cause de la persécution de Jérusalem à Antioche, en Syrie, plus au nord. Et il fallait donc envoyer des gens de confiance qui avaient la reconnaissance des pères, des chrétiens, pour transmettre cette décision. Alors nous lisons dans Actes 15, au verset 22, que Silas, avec le compagnon, celui qui devait l'accompagner dans sa mission, était décrit comme, au chapitre 15, au verset 22, comme étant des responsables. Ils choisissent Jude et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Donc des gens de confiance, visiblement des gens qui faisait l'unanimité pour leur confier une tâche difficile. Donc, il est membre distingué de l'Église de Jérusalem, chargé de cette mission d'aller à Antioche, une sorte de, aujourd'hui on dirait, un délégué plénipotentiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a toute la confiance et l'autorité pour transmettre un message. Il le fait donc avec un autre, par écrit et oralement. Il avait fait un écrit, tout cela prouve la sagesse avec laquelle l'Église de Jérusalem a décidé. Nous ne connaissons pas le parcours de Silas avant ces événements, puisque nous le rencontrons en fait déjà formé, expérimenté. Il fait partie de ceux dont l'Épître aux Hébreux va dire ils ont la nourriture solide qui est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé ou discernement du bien et du mal. Donc un homme qui a déjà fait ses preuves. Il est, on pourrait simplement résumer, un homme de confiance. Alors j'ai mis juste les titres pour résumer. Qu'est-ce qui fait un homme de confiance? Et la conclusion que je tire dans un premier temps, ma première conclusion, ce que Dieu me demande, c'est d'être fidèle ici et maintenant. Et ça, c'est le premier message qui s'adresse à chacun de nous. Nous sommes appelés, et ça s'adresse à chacun ici présent, être fidèle ici et maintenant. Et là, je fais un petit, on appelle ça un excursus. C'est-à-dire, poser la question, la confiance, comment ça marche? Le dictionnaire va définir la confiance comme une espérance ferme, une assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est le Robert. La Bible traduit le même mot grec par foi ou confiance. En fait, c'est le même mot à l'origine. Et Hébreu 11, au premier verset, définit la foi comme la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de des choses qu'on ne voit pas. Et là, je voudrais faire juste quatre remarques. La première, c'est confiance, ça signifie être digne de confiance, ou plutôt de dire être digne de confiance est une exigence pour le chrétien, d'autant plus quand il s'agit d'un responsable. Un responsable en particulier, mais pas uniquement. Tout chrétien doit être quelqu'un de confiance. Et je dirais, la confiance se mérite. Elle est le reflet de ma vie tout entière. Je ne peux pas me présenter le dimanche matin comme quelqu'un de confiance et ne pas le vivre toute la semaine. Elle se mérite dans mon comportement public, mais aussi dans mes pensées secrètes. Et elle découle de ma communion avec Dieu. Et la confiance exige l'authenticité. Je peux faire illusion un temps, et j'ai connu des gens qui faisaient illusion un temps. Mais il y aura toujours une heure de vérité. Mes dons et mes capacités peuvent éblouir un certain temps, mais, comme j'ai dit, il y aura une heure de vérité, et c'est quelquefois douloureux. Et la confiance, c'est quelque chose que je ne peux pas inventer. Elle m'est accordée par les autres, je ne peux pas l'exiger. Elle est expérimentale, mais ce sont les autres qui vont me le témoigner. En résumé, la confiance exige l'authenticité. Si je suis digne de confiance, les autres vont le remarquer. On pourrait prendre comme deuxième conclusion, je suis encouragé à être fidèle à mon ministère, c'est-à-dire ce que Dieu m'a confié et dans mon ministère, c'est-à-dire dans la façon que je vais l'exercer. Il y a beaucoup d'exemples bibliques pour cela. Mais on peut comprendre que mon obéissance journalière à la parole de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Ensuite, il est possible de rester fidèle même si je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Et il faut dire aussi que la souffrance et la déception n'épargnent pas le juste. Et je conclus, Dieu reste Dieu au-delà même de circonstances quelquefois contraires. Voilà ce qui arrive à Silas. C'est un homme fidèle et les autres le remarquent. Quand on a besoin d'un homme de confiance, il est là. Il n'a rien demandé, mais on le connaît. J'ai toujours eu un peu cette crainte tout au long de mon ministère d'être surestimé. Et ça m'a le plus souvent empêché de demander quoi que ce soit. Et j'ai toujours attendu qu'on me propose ou qu'on m'appelle à une responsabilité. En se disant, si on m'appelle, c'est tant pis pour eux, ils l'auront voulu. Mais en général, je n'étais pas déçu. Et j'espère les autres non plus. Mais je rappelle que la mission de Silas était importante. Il fallait que les messagers qui transmettent les décisions de ce qu'on appelle quelquefois le concile de Jérusalem, le fasse avec la plus grande fidélité. L'église des juifs messianiques s'adresse à l'église des païens convertis. La réponse était attendue. Il y allait de l'unité de l'église du premier siècle. Si les chrétiens de Jérusalem n'avaient pas trouvé un accord, on aurait pu imaginer la division des chrétiens du premier siècle, les purs d'un côté d'origine juive et les autres, les goïms, les non-juifs de l'autre. C'était inacceptable parce que devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Mais une fois sur place, nous découvrons en fait une autre qualité, un autre aspect de la personnalité de Silas. Sa capacité d'adaptation rapide. Il n'est pas simplement le facteur. Il voit le besoin et il y répond. Il est au service partout et toujours. Nous lisons au verset 32, toujours de l'acte 15, « Judas et Silas, de leur côté, en prophètes qu'ils étaient, leur apportaient longuement et de vive voix, encouragement et soutien. » Voilà pour une première étape. J'ai noté la conclusion. Donc, je suis encouragé à être fidèle à mon ministère et dans mon ministère. Donc, acceptation et fidélité dans l'exercice d'un ministère. Le deuxième aspect, je l'ai appelé un ministère détaché. L'homme est disponible et il est compétent, utile et fidèle dans son ministère. Dans acte 15, toujours verset 32, il exerce son ministère de prophète à Antioche, qui est défini par exhortation et affermissement. Le prophète biblique n'annonce pas forcément l'avenir. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète touche très, très peu souvent l'avenir. On pense qu'il y a, d'après M. Kuhn, qui était un grand spécialiste de compter ce genre de pourcentage, et a écrit qu'il y a à peine 8% des prophéties de l'Ancien Testament qui concernent l'avenir. Il y a à peine 2% qui sont messianiques. Le prophète biblique prononce une parole à propos, une actualisation du message à une situation précise à un moment donné. Le prophète discerne les besoins de son temps et y répond. Le contenu de son message est souvent l'exhortation parfois l'avertissement, mais aussi l'encouragement. Alors nous lisons que Silas a décidé de rester à Antioche. Il y a l'appel des besoins, la capacité de changer d'avis, la disponibilité. Il sait l'être utile par l'exercice fidèle de ses dons là où il y a des besoins. Et il adapte son ministère en fonction des besoins. Il lui aurait été plus facile de retourner en terre connue parmi les siens, parmi les Juifs, que d'exercer son ministère parmi ces anciens païens de Syrie en terre étrangère. Et là, la question se pose aussi pour chacun de nous, sur quels critères est-ce que nous choisissons notre ministère et sa forme et son lieu? Un petit témoignage, quand nous nous sommes mariés, très peu après, on nous a proposé un ministère en Suisse, au-dessus du lac de Thun, qui est l'endroit le plus beau sur la terre, comme vous le savez. Et on nous a proposé un beau chalet, mis à disposition un bus Volkswagen, et nous demander d'accueillir des enfants placés par les autorités, jusqu'à 6, avec toutes les facilités matérielles et pratiques disponibles. Ceci parce que j'étais à ce moment fonctionnaire diplômé dans les PTT et je faisais confiance. Nous avons prié pour ça, nous avons réfléchi à cette possibilité et nous n'avons pas eu la liberté de l'accepter. Je vois encore l'image devant moi, le lac en dessous, les montagnes, les 4000 en face, et un des endroits le plus beau d'ailleurs sur mon ordinateur, il y a toujours cette image qui est affichée là. Mais nous avons choisi de nous installer à Paris. Moi, originaire de la montagne, ma femme, originaire de la mer, nous retrouver à Paris, ce n'était pas un choix humain évident. Et pourtant, nous avons appris déjà à ce moment-là qu'il vaut mieux être là où Dieu nous veut, avec la paix dans le cœur, plutôt que l'endroit le plus beau sans cette présence du Seigneur. Donc, la Bible nous montre que Silas a été obéissant dans son ministère pour rester à Antioche. Silas se présente à nous comme un homme mûr, détaché des liens matériels et du confort. Sans combat, c'est pas sûr. La disponibilité a un prix. L'adaptation coûte. Chaque nouvelle étape fait peur. Nous avons toujours une hésitation de choisir une étape. Et on voit la satisfaction que quand on l'a fait, et parfois que plus tard. La récompense vient une fois le pas franchi, pas forcément tout de suite. Silas a compris et accepté la volonté de Dieu pour lui, et cela a posé le fondement pour la prochaine étape, certainement la plus importante de sa vie. 12 des 20 mentions le caractérisent. Il devient équipier de l'apôtre Paul. Et ça, c'est donc là. J'ai marqué la conclusion. Ma consécration permet à Dieu de rendre ma vie utile. Et c'est ce qui est en fait le but de chacune de nos vies, qu'elle soit utile aux yeux de Dieu. Donc, la troisième étape, ce sera l'étape de son ministère missionnaire. Je marque qu'il répond donc à un nouvel appel. Et au verset 40, toujours d'acte 15, et il part avec la bénédiction de son église d'Antioche. C'est important. Il n'est pas un missionnaire indépendant, il est un membre d'Église envoyé avec la bénédiction de son Église pour entamer ce que la Bible nous présente comme le second voyage missionnaire de Paul, qui se révélera comme étant le plus important. Un commentateur a écrit: c'est le plus important des trois voyages et aussi l'un des plus extraordinaires que les annales de la race humaine aient enregistré. Autant que ça. Et nous le voyons effectivement dans la suite. Il prouve, Silas va prouver sa fidélité auprès de Paul. Juste les quelques étapes, au chapitre 16, persécuté avec Paul à Philippe, louange en prison. Je me suis posé la question, est-ce que vous vous souvenez que Paul, quand il était maltraité à Philippe et emprisonné, et au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Se plaindre de leur sort? Eh non, ils chantent les louanges de Dieu. Et je me suis posé la question, est-ce que Paul aurait chanté s'il n'avait pas eu Silas à ses côtés? C'est pas sûr. Et cette intervention divine qu'ils ont connue, l'évangélisation du geôlier et de sa famille. Ensuite, le voyage missionnaire, l'arrivée à Thessalonique, les persécutions à Thessalonique, le départ forcé pour Bérée, la prédication dans la synagogue, le départ forcé de Paul, Silas et Timothée restent. Paul leur demande de le rejoindre à Athènes, ce qui ne se fera pas pour des circonstances que nous ne connaissons pas. Et ils vont rejoindre Paul à Corinthe. Et peut-être que c'était à cause de leur arrivée, il semblerait, que Paul a pu se mettre à plein temps dans la prédication de l'Évangile. Donc, Silas apparaît comme le compagnon non seulement utile, mais indispensable de Paul. Il ne semble pas prendre les initiatives, mais collabore étroitement avec Paul dans toutes les situations. Il souffre avec lui, combat avec lui, réussit avec lui, le complète. Paul a besoin de lui, on le voit, en son insistance de le rejoindre à Athènes. D'ailleurs, c'est à Athènes que Paul n'a pas eu vraiment de succès comme ailleurs, mais c'est aussi la seule fois que nous lisons qu'il était seul et que les autres n'ont pas pu le rejoindre à temps. Et il est fidèle dans l'adversité, pas seulement des païens, mais aussi envers Paul, qui avait un caractère quand même très affermi. Et Paul a pu, en tout moment, pleinement compter sur lui. Et ça me fait penser, écrire, que mon ministère peut évoluer, mais la consécration, elle reste. Et ça, c'est important. Moi, j'ai connu des hommes, même de près, qui avaient un ministère très, très puissant, très valable, mais qui, au bout d'un moment, sont tombés dans la désobéissance et n'ont plus connu de bénédiction, même parfois pour le restant de leur vie, malheureusement, même s'il est toujours possible de retrouver cette bénédiction. Et le dernier élément que nous lisons, c'était son ministère itinérant, qui montre l'homme polyvalent, mais fidèle toujours. Je résume juste les trois étapes que nous connaissons de lui. D'abord, Paul l'identifie comme le co-prédicateur de l'Évangile à Corinthe. Donc, il ne faisait pas là qu'être à côté. Il était activement engagé. Donc, 2 Corinthiens. Et ensuite, dans Thessaloniciens, Paul le désigne comme co-expéditeur, peut-être comme co-auteur de la rédaction de l'Épître aux Thessaloniciens. Et dans 1 Pierre, nous lisons qu'il a finalement voyagé avec Pierre et a peut-être être le facteur, en tout cas, et peut-être le rédacteur de la première Épître de Pierre. Et ma conclusion, c'est: rien n'empêche le Seigneur de me garder fidèle jusqu'au bout. Il est possible, et ça peut encourager chacun de vous, il est possible de rester fidèle jusqu'au bout de notre vie. Alors j'en ai fait quelques applications qui sont autant de questions. D'abord, j'ai fait quelques propositions. Ce sont des titres qui ont été donnés par des étudiants de l'IBG. Je leur ai enseigné les Actes des Apôtres, et quand je parle de Silas, je leur ai demandé, dans un devoir, de faire en une petite phrase une description de Silas. Et ce sont les résultats qui sont apparus là. Et vous pouvez chaque fois vous demander, est-ce que lequel me convient? Un collaborateur idéal, un équipier solide, un véritable chrétien engagé, un homme fidèle, imitateur de Christ et équipier modèle, frère Silas, l'efficacité à votre service, c'est un qui a écrit, disciple fidèle de son maître, du divin maître, mais aussi du maître humain, qui était Paul, ou encore un second sur terre, un premier au ciel. Voilà, vous pouvez vous identifier sur l'un ou l'autre de ces titres-là. Et donc, quelques applications. Donc, autant d'interrogations. Quelle est ma disponibilité pour partir sans garantie et spontanément? Est-ce que je peux être appelé par le Seigneur? Et ça ne veut pas dire simplement partir outre-mer en mission, mais peut-être aussi simplement dans mon appel à être au secours de mon voisin, de mes proches, de ceux qui m'entourent, ou à mon travail, là où Dieu m'a placé. Et ma réaction dans la difficulté, ma joie dans l'épreuve, ma persévérance devant l'opposition. Celui qui ne fait rien n'a peut-être pas de problème, peut-être. Mais il ne fait rien non plus. Mais celui qui fait quelque chose, quand vous lisez les récits missionnaires ou des hommes de Dieu engagés, de femmes de Dieu qui ont consacré leur vie, ça ne se fait jamais sans combat ou sans difficulté. Comme si Dieu avait besoin de l'opposition pour nous pousser dans sa présence et pour nous révéler sa puissance. L'autre question, c'est ma capacité de collaborer, d'occuper ma place, de me soumettre, d'être équipier. Mon expérience personnelle, c'est que j'ai remarqué qu'un jeune qui n'arrive pas à se soumettre, qui reste dans l'opposition constante, quand il devient lui-même responsable, il devient un tyran. La soumission est une exigence pour les chrétiens. Celui qui ne sait pas se soumettre aurait toujours ou créera toujours des difficultés autour de lui. Et la question se pose bien sûr à chacun, peut-on me faire confiance, me confier des responsabilités? Et c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce que jamais personne ne m'a confié une responsabilité? Ah, je m'interroge. Mais l'encouragement, c'est à lire, à connaître et à savoir manier la Bible, à faire confiance à mon Dieu, entreprendre pour lui, mettre ma foi en action, m'engager à chercher la reconnaissance et le soutien de mon Église, à faire preuve de fidélité, accepter mes dons, mais aussi mes limites, à servir avec ce que j'ai dans mon Église, là où je me trouve, ici et maintenant. Encouragement à une foi ferme, une vie de prière et de dépendance de Dieu, à prendre position pour mon Seigneur, et à une fraternité sans faille avec les frères, malgré les différences, sur la base, sur quelle base ? Que je peux avoir une communion avec mon prochain dans l'Église sur la base du pardon en Christ. Et en conclusion, Je pose, vous pouvez peut-être poser la question, je ne suis pas Silas. Je n'ai pas ses capacités, sa fidélité, je ne suis pas doué comme lui, je n'ai pas son vécu, je n'ai pas cette abnégation. Mais là, je répondrai, on n'est pas responsable, on devient. Nous rencontrons Silas à un moment donné. Nous apprenons à son sujet les choses que je vous ai partagées. Mais il est évident que cet homme a passé par un apprentissage, peut-être douloureux, des expériences humiliantes, des défaites mal digérées. Il se présente à nous à un stade déjà avancé de sanctification. Ça me fait simplement dire que ma fidélité ici et maintenant est importante. Elle est la base, oui. Et que l'important, c'est que je sois en route. Il y a des chrétiens qui parfois s'arrêtent, et parfois pendant longtemps. Nous devons rester en route. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, notre mission n'est pas terminée. Et je suis très heureux. Moi, j'ai demandé au Seigneur, quand j'ai eu l'âge de la retraite, permet que la suite de ma vie continue à être utile. À tes yeux, non pas pour moi, mais pour ta gloire. Et le Seigneur a été fidèle jusqu'à présent. Et je sais qu'il sera encore demain. Voilà donc très brièvement un petit aperçu d'un personnage biblique 20 fois mentionné dans le livre des Actes surtout, et qui nous donne simplement envie de mieux connaître notre Seigneur, de mieux le servir, de mieux l'aimer. Et que ce soit aussi un encouragement pour chacun de nous. Amen. Merci Seigneur pour ces exemples bibliques que tu nous donnes. Tu nous les donnes non pas pour nous décourager, mais bien au contraire pour nous montrer ce que tu peux faire au travers d'un homme, d'une femme qui soit fidèle, obéissant, qui te font confiance et qu'ils veulent te voir agir dans leur vie. Et je te demande pour chacun de nous que tu nous donnes ou renouvelles ce désir de te voir agir dans notre vie, d'être honoré par notre pensée, notre parole, notre acte de tous les jours. Merci de nous encourager dans ce sens et de nous donner ce dont nous avons besoin en Esprit Saint pour éclairer ta parole, éclairer ta volonté pour notre vie, pour être utile à tes yeux et que nos vies aient un sens, celui que tu as prévu de nous lui donner. Nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen.